Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Pas de changement de cap, mais un mea culpa et un changement de méthode. Le président, pendant plus d'une heure, s'est plié à la traditionnelle interview du 14 juillet. Emmanuel Macron arrondit les angles avec les Français, souhaite davantage de concertation pour susciter notamment l'adhésion sur ces réformes. Il insiste sur sa volonté de redonner du souffle à la méritocratie républicaine qui permet à chacun d'avoir une chance de s'en sortir et se fixe un objectif désormais protégé. Sa priorité, l'emploi et ces jeunes à qui on a demandé, comme il dit, les plus gros efforts pendant la crise du Covid, avec des annonces spécifiques pour amortir le choc de la rentrée. Il confirme un plan de relance de 100 milliards axé sur l'industrie et l'écologie et tranche. Le port du masque sera bien obligatoire le 1er août dans les endroits clos. Alors que retenir de cette intervention? À quoi ressemble donc le nouveau chemin? Emmanuel Macron a-t-il changé? Nouveau chemin, nouveau Macron, ce sont deux questions et c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Yves Tréhard, vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro à la une de votre journal, 14 juillet, l'hommage de la nation aux soignants. Là aussi, nous y reviendrons. Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique au journal Les Échos. Soazic Kamener, vous êtes rédactrice en chef au service politique de Marianne. Enfin, Brice Teinturier, vous êtes directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos et vous êtes par ailleurs professeur à Sciences Po. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Alors naturellement, vous avez suivi comme de nombreux Français l'intervention du président de la République. Il avait hésité à faire cette interview du 14 juillet avec le recul. Est-ce qu'il a eu raison? Parler aux Français.
Mais il a beaucoup parlé ces derniers temps. C'est la cinquième fois qu'il parle depuis trois mois. Et à chaque fois, c'est pour nous dire « je vous annoncerai la prochaine fois ». Donc là, il nous a annoncé davantage de choses. C'est un peu plus concret. Il a renoué avec une tradition qui avait été créée par Valéry Giscard d'Estaing en 1978. Bon, il est revenu à l'ancien monde. On pensait que le nouveau monde, justement, ben, on balayerait le 14 juillet. Il a dit des choses.
Et il a commencé par un mea culpa. On va essayer de détricoter tout ce qui a été dit.
Il a dit mea culpa assez fort, en disant « ma méthode n'était probablement pas la bonne, j'ai toujours le même cap, et les Français ont peur, le pays a peur ». Ça m'a frappé, cette expression. Le pays a peur, c'est parce qu'il a peur, dans sa bouche…
Il y a une crise de confiance.
Qu'il se cabre, et il y a une crise de confiance. Après, il nous a parlé de la crise sanitaire en disant que le masque, et puis il nous a parlé surtout de la crise sociale.
Et ça, on va y revenir.
Là-dessus qu'il a dit le plus de choses qui, à mon avis,
sont concrètes. Et vous avez raison de ranger les choses dans cet ordre-là. Mais prenons les choses dans l'ordre, si vous le voulez bien, Yves Tréhard, avec cet exercice de contrition. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait, mais il est allé assez loin. On explique ici même sur ce plateau qu'il a une relation compliquée avec les Français, Emmanuel Macron. On pose la question ce soir, nouveau Macron?
Non, je ne crois pas que ce soit un nouveau Macron, on ne change pas et le naturel revient toujours au galop. Simplement, il sait que son quinquennat, il le joue maintenant. Je pense que la crise sanitaire a effacé dans la tête de beaucoup de gens les réformes qu'il a pu faire et les réformes qui ont pu plaire à certains et qui ont déplu à d'autres. Et que là, il est un moment déterminant où il faut qu'il se fasse une image de père de la nation. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a choisi le 14 juillet, de père de la nation et qu'il rassemble. Et c'est bien l'objet de cette intervention qui était très longue, mais c'était tout l'objet de son intervention aujourd'hui pour
et
les Français.
Et il dit cette phrase, « J'ai sans doute laissé paraître quelque chose que les gens ont fini par détester. »
Oui, les mots sont forts. Hein.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé que ce qui change vraiment, plus que la méthode, parce que finalement, après les gilets jaunes déjà, c'était « on va concerter, on remet les partenaires sociaux au centre du jeu ». C'était cet exercice de contrition et puis surtout ce sentiment, si vous prenez toute l'interview en filigrane, il y a toujours ça, cette volonté d'être aimé. Donc pour être aimé, il faut montrer ses failles. Donc il a dit j'ai fait des maladresses, je suis pas parvenu à balayer les passions tristes. Il a un vocabulaire, il conserve un vocabulaire sophistiqué, mais il a mis plus de choses liées à l'émotion. Il a dit, en parlant de Jean Castex, il dit il a de la patte humaine. On voyait une tentative comme ça. Et ça va aussi avec une volonté de ne pas heurter. Avant, c'était Jupiter qui disait « je veux ». Là, on voit qu'il essaye de dessiner son chemin, mais il ne veut pas annoncer les choses qui font du mal. Donc, il dit il va falloir qu'on ait le port du masque obligatoire, mais il ne le dit pas comme ça. Il dit ce sera le 1er août et moi, pour l'instant, je ne fais qu'une recommandation. Sur les retraites aussi, ouais. On avait vu Jean Castex qui disait qu'il faut le remettre sur... Là, il dit non, on va voir... Enfin, il ne dit pas non.
Il veut aller chercher le cœur des Français.
Moi, je pense que son chemin, c'est d'aller chercher le cœur des Français. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile d'être dans un gros exercice de contrition et de dire en même temps, donc de dire je me suis trompée, mais de dire en même temps mon ambition reste intacte. Il y a comme un quelque chose un peu de dissonant. Et du coup, comme il ne veut pas dire les choses très franchement, très clairement toujours, je trouve que ce nouveau chemin, il n'est pas toujours très clair. Voilà, il se perd peut-être dans ce chemin pour les Français,
c'est
le fait
un
peu dévier son nouveau chemin.
Effectivement, c'est sur une ligne de crête et il a eu cette phrase pour expliquer que le cap reste le même, que le chemin est différent aux Français de s'y retrouver dans tout ça. Sur ce début d'interview très centré sur sa relation avec les Français, Swazik Kemener.
Il a reconnu qu'on était dans des temps de très grosses incertitudes. C'est ce qu'on a vécu avec la crise du coronavirus, c'est ce qu'on va vivre avec la crise économique et sociale. Donc on a eu l'impression qu'il essayait de s'adapter à cette incertitude en reconnaissant ses propres doutes et ses propres incertitudes. Après, c'est vrai que ça a pris énormément de temps dans l'interview et certainement au détriment de ce qu'il devait annoncer, parce qu'on se souvient, Yves Fréard le disait, ça fait plusieurs interventions qu'il annonce l'intervention suivante. Il y a un peu un jeu comme ça de teasing, de préparation. Et quand on reprend ce qu'il avait dit le 14 juin, il avait dit « je vous montrerai ce nouveau chemin et j'aurai des propositions concrètes ». Alors, ce n'est pas exactement ce qu'il a dit, je lancerai les premières actions. Oui. C'était ce qu'il avait dit le 14 juin. Et c'est vrai que là, on reste vraiment sur sa fin si on attendait que le plan de relance soit détaillé, par exemple, parce qu'il a passé beaucoup de temps sur sa relation avec les Français. Il l'avait déjà fait sur le porte-avions Charles de Gaulle, quand il avait dit « j'ai pas réussi à renouer la confiance avec les dirigeants ».
Il était interrogé là-dessus, sa décharge.
Oui, mais c'est vrai que dans la réussite ou non de cet exercice, il y avait l'importance pour lui d'imposer son plan de relance, parce que c'est très important. Alors, il a donné son calendrier, 6 mois pour l'emploi et puis ensuite le plan de relance. On voit que son calendrier va être très, très contraint par ça, et finalement il aura assez peu de temps pour autre chose. C'est ça, je trouve, ce que j'ai retenu moi de cette interview, c'est qu'il reconnaît aussi que finalement les jours sont en train de se décompter. Il dit 600 jours, certains disent mais si on enlève la campagne ça fait 500, il reste très peu de temps, et donc là c'est la preuve que son calendrier, enfin la conscience que son calendrier est vraiment très serré.
Encore sur la relation avec les Français, il a passé une bonne partie de l'interview à expliquer qu'il n'avait pas suscité de l'adhésion, réussi à susciter de l'adhésion sur ces réformes. Et on a eu un président de la République qui a plusieurs reprises expliqué qu'il voulait protéger les Français. Là, il y a des inflexions quand même assez nettes avec, si on reprend le Macron des débuts.
Oui, et en même temps, on avait une sorte de période de flottement depuis quelques temps. On ne savait pas très bien où il allait atterrir, si la ligne allait être changée, pas changée. Il y avait eu le remaniement. Il a recadré très clairement les choses. Sa promesse, c'est sa promesse initiale. Et il l'a dit quasiment en ces termes. Son mandat, dont on pouvait se dire, aujourd'hui, quel est-il son mandat après les Gilets jaunes, après le Covid, après ce remaniement? Eh bien, son mandat, c'est celui de 2017. Il a tracé toujours l'idée d'une société qui devait être une société où les gens ne sont pas assignés à résidence. Il a redit qu'il ne bougeait pas de cela, que c'était son cap. Alors, sur la méthode, oui, on change de nouveau chemin. Il ne nous a pas dit grand-chose sur le nouveau chemin. Là, on est dans quelque chose, effectivement, de très, très flou. Il y aura plus de dialogue, c'est ce qu'on a compris. Mais ce qui m'a le plus frappé, moi, ce n'est pas ce qu'il a dit, c'est ce que son corps exprimait.
Alors, qu'est-ce qu'il disait, son corps ?
Ah, mais j'ai trouvé qu'il était dans une espèce de volonté, de détermination, d'énergie, qu'il parlait d'abord énormément avec ses mains. Alors, il le fait toujours, il a une très grande amplitude de gestes. Ouais. Il est comme ça, il a le doigt pour essayer de convaincre, pour prendre. Et puis, il a ce geste de plus en plus où il serre les poings, et plusieurs fois, il serrait les poings comme si ses convictions remontaient, qu'il voulait les exprimer.
En campagne, quoi.
Il a cette façon de se cramponner à lui-même. Et j'ai trouvé que c'était ça, finalement, le plus frappant. Ce n'est pas le nouveau Macron, c'est plutôt, moi j'ai eu le sentiment, le retour du Macron du début. Donc oui, on va changer un peu sur...
Du Macron de la campagne.
Du Macron de la campagne, du Macron qui dit « j'ai un cap, je m'y tiens, je veux continuer ». D'ailleurs, il l'a réaffirmé, qu'il voulait continuer à s'affranchir de ce clivage gauche-droite, qu'il avait été élu sur cette promesse-là, et que c'était cette promesse qu'il voulait continuer. Donc moi, j'ai eu le sentiment plutôt d'un Macron qui essayait de renouer avec la promesse initiale, qui avait fait un acte de contrition, on l'a tous souligné, extrêmement important sur la détestation, mais qui en réalité était déjà tendu sur l'objectif.
Il essaie d'effacer la critique, le procès qu'on lui a fait en arrogance, le président des puissants qui ne sait pas être en lien et en contact avec une autre France. Il a même utilisé une expression qui était utilisée par ses opposants sur les premiers de corvée. Je ne sais plus qui avait inventé cette expression en référence aux premiers de cordée. Là, pour le coup, il y a quelque chose de différent.
Il l'a redit, mais c'est déjà à l'œuvre cette tentative de se réconcilier avec les Français et de casser le procès en arrogance, le procès
que les Français lui font toujours, Brice Teinturier.
Que les Français lui font toujours. Il est toujours perçu comme quelqu'un d'arrogant. Mais depuis les Gilets jaunes, il essaye d'éviter les petites phrases. Depuis le Covid, il essaye aussi de montrer qu'il est beaucoup plus dans la consultation, même avant le Covid, sur les enjeux environnementaux. Ça, je doute qu'il parvienne à transformer substantiellement son image. L'image auprès des Français, elle est très structurée, elle est très cristallisée dans ses aspects positifs et négatifs. L'arrogance perçue, elle sera toujours là, à mon avis. Il arrondit un peu les angles. En revanche, encore une fois, la détermination intacte, c'est ça que j'ai trouvé le plus frappant, moi, dans cette interview.
En tout cas, il n'a pas laissé à son Premier ministre le soin de prendre cette décision. Le président a tranché. Le port du masque sera obligatoire en lieu clos le 1er août. Car, comme le dit Emmanuel Macron, nous avons des signes que cela repart un peu. Ce sont ces mots. C'est l'une des annonces de cette interview du 14 juillet, dans laquelle le chef de l'État s'est aussi attardé, on l'a dit, sur sa relation avec les Français. Julien Lonnais, Nicolas Baudry-Dasson.
J'ai sans doute laissé paraître quelque chose que je ne crois pas être profondément, mais que les gens se sont mis à détester. Ce président qui voudrait tout réformer pour que ce ne soit que les meilleurs qui puissent réussir, que notre pays finalement s'adapte à la mondialisation. Ça n'est pas mon projet. Mais le jeu des maladresses parfois, des phrases sorties de leur contexte d'autrefois, de l'opposition, de la vie politique, a fait que cette détestation a pu être alimentée. La méthode utilisée durant les trois premières années du quinquennat a permis de faire des réformes inédites. On a fait des réformes, et je rends hommage là à Édouard Philippe et ses gouvernements, qu'on pensait impossibles. Par contre, la confiance n'avait pas retrouvé le pays. Ce que j'ai souhaité déployer avec un nouveau Premier ministre, une nouvelle équipe, mais plus profondément dans ce projet pour le pays, ce n'est pas changer de cap, de destination finale, qui est d'avoir une France forte, indépendante, dans une Europe autonome, et au fond que chacun puisse vivre mieux. C'est de changer de chemin pour y arriver. C'est d'associer davantage. C'est de passer davantage par le dialogue social, par l'association avec les élus. Et c'est peut-être de bâtir plus fortement une confiance si fragile. Elle ne peut pas se faire comme elle était emmanchée avant la crise du Covid. Est-ce que c'est une bonne idée de l'abandonner totalement ? Je ne crois pas.
L'amender, oui.
La remettre à la discussion, à la concertation. Je dis juste, ce n'est pas au président de la République d'asséner un 14 juillet ce que va être la réforme des retraites.
Non, vous pouvez avoir une préférence.
Je suis en train de vous expliquer que la réforme universelle est une réforme juste et bonne et que nous ne ferons pas l'économie d'une réforme de notre système de retraite pour qu'il soit viable. Nous avons des signes que ça repart quand même un peu. Face à cela, nous devons prévenir et nous préparer. J'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. Nous allons, on va observer la situation, mais nous mettre en situation de pouvoir, par exemple à partir du 1er août, le rendre totalement obligatoire. D'abord, je respecte toujours l'émoi et la colère des causes justes. Et donc la cause féministe, je la partage. Aussi vrai que je crois à la force des causes justes, je pense qu'aucune cause n'est défendue justement si on le fait en bafouant les principes fondamentaux de notre démocratie. Et je le dis pour un ministre comme je le dirais pour quelques citoyens que ce soit. Je suis aussi de là où je me place, le garant de cette présomption d'innocence.
Juste un mot sur les explications sur Gérald Darmanin. Il a apporté son total soutien à son ministre de l'Intérieur.
Oui, il a évidemment apporté son total soutien au ministre de l'Intérieur. Je doute qu'il ait pu persuader les féministes, parce que c'est quand même assez... Vous prenez un autre cas, mise en examen, par exemple, pour détournement de fonds, ou pour, je ne sais pas, emploi fictif. Je ne suis pas sûr que le ministre reste.
Alors, il n'y a pas de mise en examen encore.
Certes, mais même quand il n'y a pas de mise en examen. Là, il y a aussi la volonté de résister et de montrer que je tiens bon. On peut dire qu'il l'a défendu. Il l'a défendu de façon très ferme, mais je doute que ça arrête le sujet. Surtout qu'on ajoute Dupond-Moretti à tout cela, sur ses déclarations sur les femmes, le mouvement MeToo. Et je pense qu'il y aura des manifestations tous les jours. Ça va être son nouveau problème.
Il a défendu un principe, il a défendu une personne, mais beaucoup, l'argumentation portait beaucoup sur un principe au cœur, selon lui, de la République, de la démocratie, et qui est qu'on ne doit pas faire fi de la présomption d'innocence et qu'il ne peut pas y avoir une justice à la fois des réseaux sociaux, est-il dit, ou d'opinion. Il a évoqué la démocratie d'opinion qui serait quelque chose contre lequel, justement, il faut lutter. Après, il a contrebalancé cette question de principe par une grande compassion, compréhension, adéquation à la cause défendue par les féministes. Donc il a essayé de tenir ces deux principes
en même temps.
À peu près au même niveau, en même temps, une fois de plus.
Cette question qui nous est posée ce soir, il y a beaucoup de questions d'ailleurs de cette tonalité. Je n'ai pas eu l'impression que notre président se soit réinventé. Suis-je passé à côté d'un changement ?
En tout cas, il ne veut pas changer de cap. Il veut continuer à faire une politique de l'offre pour les entreprises. Par exemple, il y a eu dans l'air, après toute la crise du Covid, est-ce qu'on augmente les salaires on l'a fait pour les soignants, mais pour tous les autres, les caissiers, tout ça, et ça, il ne le fait pas. Donc, c'est vraiment l'emploi et l'entreprise pour
sur les retraites ?
Sur les retraites, bon... Là, on ne sait pas exactement ce qu'il va faire. Il a les deux discours. Il a un discours réformateur. On ne peut pas laisser ça aux générations futures. Il faut faire quelque chose. Et en même temps, il donne la main, comme il dit, au gouvernement et aux partenaires sociaux. Donc, ça peut, à partir du moment où on sait que les partenaires sociaux ne veulent surtout pas en entendre parler, on peut laisser penser qu'il est en train de s'amender un peu là-dessus.
Vous s'intéressez sur la réforme des retraites. C'est vrai que c'était moins clair que ce qu'avait dit le Premier ministre. Alors, on sera fixé demain au discours de politique générale. Mais le président a donné le sentiment que sur le principe, effectivement, vous l'avez bien dit, hein, il fallait réformer le régime des retraites, à la fois le système et à la fois l'aspect financier, mais sur le calendrier, on a l'impression qu'il se laissait du temps.
Alors, on ne sait pas, sur le calendrier, effectivement, il diffère. Il a défendu les deux principes, et avec force, il a défendu le principe de sa retraite, du changement, au nom de la justice, point justement dont il regrette de ne pas avoir réussi à le faire passer comme étant au cœur de sa politique auprès des Français. Mais il a redit que c'était une réforme à ses yeux justement juste, plutôt en faveur des premiers de corvée, disait-il, c'est-à-dire qu'effectivement dans le mécanisme de la retraite, on prend davantage en compte le temps des gens précaires.
Donc là, il tient
Donc
son
là,
cap.
Il clairement. Tient son cap. Il a tenu son cap, ça c'est plus aussi vis-à-vis de l'électorat de droite, sur la nécessité d'assurer la viabilité financière du système. Et puis ensuite, on ne sait plus. C'est-à-dire qu'après, sur le timing, on ne sait pas très bien si...
Il y a quand même une indication, parce qu'on lui a posé la question, enfin un de nos confrères ou consoeurs, je ne sais plus, a posé la question de savoir si ça serait voté avant la fin du quinquennat, et il a botté en touche, si vous permettez l'expression, et on a compris que ça faisait partie... Parce qu'il est très vite parti après sur le fait qu'il voulait changer la France d'ici à 10 ans. Et on a très vite compris que c'était peut-être une réforme qui serait à l'agenda de son futur quinquennat s'il en fait un.
Est-ce que vous avez vu et entendu un président de la République, Yves Tréhard, qui veut apaiser le pays ?
Oui, c'est très clair. La réforme des retraites, c'est plus d'actualité. La réforme du système d'assurance chômage,
on n'en parle
plus, ou il n'a pas été posé de questions là-dessus, on n'en parle pas. Et là, il a deux soucis, parce que je pense qu'il se méfie beaucoup de l'éruption de la jeunesse à la rentrée, entre ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui ne trouvent pas, ceux qui sont...
Mais on va en parler, il y a eu des annonces.
Et là, il y a eu des annonces importantes. Mais je pense qu'il y a la volonté d'apaiser. Il y a une chose qui est tout à fait étonnante. Il faut arrêter la polémique sur le masque. La polémique sur le masque a... pourri, si vous me permettez l'expression, la gestion du Covid, qui n'était pas simple et qui n'a été simple dans aucun pays. Et chez nous, ça a quand même roulé et duré. Et là, tout ce qui était dit il y a 3 mois par lui, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé, hein, on fait tout le contraire. C'est-à-dire que maintenant, le masque va devenir obligatoire. Ouais. Ce qui est quand même, si vous voulez, un revirement terrible. Et s'il fait ça, c'est parce qu'il sent que dans la population, ben, y a quand même la volonté d'être protégé et que l'État ne tourne pas le dos à une mesure qui est somme toute assez facile à remplir, à condition qu'on ait des masques.
Donc là, cette fois-ci, c'est clair.
Cette fois-ci, c'est très clair. C'est la première fois que c'est aussi clair dans la bouche d'un membre de l'exécutif. Donc il y a une volonté d'apaiser par le mea culpa. Ouais. En disant « je ne suis plus Jupiter, je vous écoute et je dialogue » et les corps intermédiaires, il a reparlé de ça. Ouais. Volonté d'apaiser sur le Covid, on laisse tomber l'histoire de la chloroquine non plus, je ne prends pas, bon, en gros, je fais comme tout le monde.
Il a dit qu'il ne le prendrait pas lui-même.
Voilà. Et troisièmement, volonté d'apaiser aussi par les mesures évidemment sociales dont on va parler.
Dont on va parler, vous vouliez dire un mot.
Juste que tous les présidents finissent par tomber du côté de la protection, même quand ils ont démarré un mandat qui était un mandat plutôt libéral. C'est ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy, c'est ce qui arrive à Emmanuel Macron, et Jacques Chirac aussi était passé. Parce que c'est la demande fondamentale des Français.
Être protégé.
Être protégé. Parce que le monde est de plus en plus anxiogène, agressif, que la mondialisation divise profondément les Français, et qu'une série de choses font qu'ils oscillent entre... Ouais. Des nécessités, on va dire, de compétitivité qui les tirent vers un versant libéral, et puis ensuite une demande de la population qui est une demande avant tout de protection. Et là, effectivement, on a eu un Macron
qui cherche
à protéger les Français, peut-être plus encore qu'à les apaiser.
Sauf sur un point, qui est l'émission régalienne. Je pensais qu'il allait en parler parce que son Premier ministre en parle beaucoup. Ce qui était un peu absent du discours précédent des autres gouvernements. Et là, il n'en a quasiment pas parlé, sauf à la fin pour parler des caméras piétons pour les policiers, ce qui n'est pas anodin du tout, parce que c'est une réforme importante, hein, que demandent les policiers aussi. Ce n'est pas quelque chose qui peut les mettre en colère, je ne crois pas. Mais il n'a quasiment pas parlé des missions régaliennes.
Et pour finir sur l'apaisement, il fait des déclarations d'amour à des catégories de personnes, ce qu'il ne faisait pas. Il l'a fait hier soir aux militaires, on est loin de « je suis votre chef » d'il y a 3 ans, rappelez-vous, aux soignants avec les 8 milliards d'euros sur la table, et là aux enseignants, dont on sait qu'ils sont un petit
peu... Il a salué leur travail pendant la crise.
Alors que lui-même, il avait sous-entendu que certains avaient un peu décroché derrière...
Et qui attendent aussi une revalorisation salariale qui leur avait été promise avant la crise du Covid. Là où il était attendu, c'est sur l'explication de son changement de Premier ministre. Le départ d'Édouard Philippe, l'arrivée de Jean Castex. Qu'est-ce qu'il a expliqué là-dessus qu'on ne savait pas, Swazik Kemener? Est-ce que là-dessus, ça illustre le changement de chemin qu'on évoque ce soir?
Alors, il sait la difficulté, hein. Gilles Boulot l'a rappelé en posant sa question, Édouard Philippe était très populaire. Donc c'est vrai qu'il y a toujours une incompréhension. Pourquoi remplacer Édouard Philippe par Jean Castex, qui est aussi un homme de droite, alors qui a une trajectoire différente d'Édouard Philippe, qui n'est pas le maire d'une grande ville, c'est ce qu'a rappelé Emmanuel Macron. Lui a mis vraiment le focus sur Jean Castex, élu de Prades.
C'est l'homme des territoires.
Voilà, 6 000 habitants, c'est pas du tout la même chose que Le Havre, pas la même trajectoire, il n'était pas bras droit d'un candidat à la présidentielle, il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée, mais c'est vrai qu'à la fin, au bout du bout, il apparaît que Jean Castex est là, et il le dit d'ailleurs le président de la République, pour montrer qu'il y a un nouveau chemin. Parce que, en fait, dans la réinvention d'Emmanuel Macron, dans le nouveau chemin qui est promis, alors il dit qu'il ne va pas employer les mêmes méthodes, mais c'est vrai qu'on a déjà entendu ce discours. Le dialogue social, c'était aussi ce qui devait être au cœur de l'acte 2 du quinquennat.
Il y a quand même une différence entre les deux, sur la manière de concevoir le dialogue social entre Édouard Philippe et Jean Castex.
Alors, on va peu à peu le découvrir. C'est vrai que Jean Castex, on l'a vu un peu au moment du Ségur de la Santé, dont les accords ont été signés lundi. C'est allé très vite. Alors, ce n'est pas encore totalement un sujet qui est totalement éteint. Il a vu Jean Castex, les représentants des syndicats, jeudi dernier. D'ailleurs, d'où sans doute la réaction d'Emmanuel Macron aujourd'hui sur la réforme des retraites, parce que ça ne s'est pas si bien passé que ça. C'est-à-dire qu'il a eu face de lui un front uni contre la réforme des retraites. Les syndicats disent, les représentants syndicaux disent, nous on veut parler de l'emploi, on ne veut pas parler de la retraite tout de suite. Et ce qui explique sans doute, c'est ce que pensent en tout cas les leaders syndicaux aujourd'hui, le décalage d'Emmanuel Macron et le fait que finalement décalage par rapport à son Premier ministre, que cette réforme des retraites, oui il veut la faire, mais on ne sait pas quand, effectivement ce sera sans doute un élément pour la campagne présidentielle.
Sur le fond, il a prononcé cette phrase, je continue de mettre en œuvre la promesse sur laquelle j'ai été élu. Donc ça c'est la continuité d'Édouard Philippe à Jean Castex. Et sur la forme, sur le nouveau chemin, c'est plus de dialogue social, ce qu'il a également dit. Donc on reste dans la même ligne, il le réaffirme, clarification absolue, En revanche, j'ai besoin d'une nouvelle équipe et d'un nouveau Premier ministre pour illustrer justement cette volonté que j'ai d'être davantage en relation, davantage en dialogue, davantage
en écoute. Comment est-ce que vous résumeriez, Brice Saint-Aurier, ce qui a changé ? Comment est-ce que vous résumeriez le nouveau chemin, le nouveau Macron, même si vous nous avez expliqué qu'on ne change pas et qu'au fond, ce sont des ajustements qui sont en train de, d'être mis en scène d'une certaine manière par le président ?
Moi, je trouve, vous l'avez compris, que justement, il ne nous dit pas qu'il y a tant de changements que cela, puisqu'il réaffirme son attachement à sa promesse initiale. Ouais. Donc, le seul changement, mais il est important, c'est il consiste à dire, dans ma relation avec les Français, j'ai failli. Et c'est ça qui est important, c'est ça que je vais essayer de mieux traiter en étant davantage dans une posture d'écoute et pas de sachant autoritaire et vertical.
Il fait écho
à... C'est le changement qu'il annonce, mais depuis déjà plusieurs
mois. Et il fait écho à un livre que vous avez écrit sur la crise de la démocratie. C'est un en filigrane de cette intervention, c'est quelque chose qui revient très souvent. Cette difficulté qu'ont les Français de croire à la méritocratie républicaine. Il dit, il s'est installé l'idée que les gouvernants ne pourraient rien changer ou les autres qui considèrent que à quoi bon, il faut tout abattre. Il dit la crise d'un modèle méritocratique républicain, c'est le plus important. Là, on a l'impression que il y a évidemment la priorité sur l'emploi, l'économie, la rentrée, on va en reparler. Mais ça, il revient à sa promesse.
Il en a parlé.
Il revient à ça, il revient à sa promesse, il revient à la question de la crise démocratique et à la question du doute. Et il a plusieurs fois évoqué ce doute si français. Moi, j'ai souvent dit ici qu'on était dans le pays de Descartes et que ce n'était pas rien, c'est-à-dire un pays où on a enfanté quelqu'un qui doute même de savoir s'il a un corps. C'est ça le doute cartésien, le doute hyperbolique. Et on est dans un pays qui doute profondément de lui-même, de l'avenir, de son rôle, de sa place. C'est ce qu'il s'est pris de plein fouet. Simplement, il le prend, il essaie de le théoriser et d'en faire quelque chose. Voilà. Et du coup, en termes de méthode ou de relation avec les Français, d'agir ou de dire qu'il va agir un peu différemment.
Il fait le constat, mais il ne donne pas la solution.
Non, moi je trouve qu'il est quand même très flou sur le nouveau chemin, parce que franchement, une fois qu'il a dit le nouveau chemin, une fois qu'il a dit Jean Castex, c'est plus de dialogue social, on n'a pas grand-chose. On a une réaffirmation de la ligne, on a l'affirmation du nouveau chemin.
On cherche encore le nouveau chemin, c'est ça.
Et ce qui était intéressant, c'est qu'il a quand même, à un petit moment, il a pas mal souligné le fait qu'il y a eu une abstention énorme aux élections municipales. On ne l'attendait pas là-dessus. On ne pensait pas qu'il allait en parler. Et c'est ça qui est assez intéressant. Moi, je pense qu'il il est resté sur son diagnostic de la campagne présidentielle. C'est-à-dire, il l'a dit à un moment, la France souffre trop de carcans, on est trop enfermé, tout
dans
ça.
Dans des cases.
Ce qui est vrai, d'ailleurs. Ce qu'un constat qu'avait fait pas mal de candidats à la présidentielle, notamment François Fillon. Mais il est rattrapé par la nécessité de protéger. C'est exactement à chaque fois ce que chaque président rencontre. C'était le cas de Giscard d'Estaing. C'était pareil. Valéry Giscard d'Estaing, de 74 en 76, il libère. Et à partir de 76, en plus il y a la crise pétrolière, il est obligé de protéger. C'était d'une certaine façon, sous un autre angle avec François Mitterrand, parce que François Mitterrand voulait changer le pays. Il change le pays pendant 2 ans, qu'on soit d'accord ou pas. Mais au bout de 2 ans, il est obligé de complètement changer de politique. C'est le cas de Jacques Chirac très vite. Hein, la fracture sociale, il ne l'a jamais refermée. C'est le cas de Nicolas Sarkozy, sur qui tombe cette crise financière qui n'était pas anodine. Et c'est le cas aussi de François Hollande, qui voit qu'il ne peut pas tenir et qui, le 1er janvier 2014, change complètement, radicalement de politique économique. Et c'est son cas aussi. Et à chaque fois, eh bien, il y a l'impossibilité, je dirais, de rester sur la même ligne depuis le début, parce qu'il y a cette nécessité pour les Français d'être protégés, aussi bien sur le plan, sur tous les plans, social, physique, national.
Alors, Cécile Cornudet. Ce qu'il faudra voir, c'est si ces deux objectifs ne sont pas contradictoires. Il dit qu'il veut maintenir le cap, on l'a bien dit, et il dit qu'il veut écouter. En fait, s'il avait été si jupitérien au début, c'est parce qu'il avait conclu que la méthode des partenaires sociaux de François Hollande, eh ben, ça menait à l'immobilisme. C'était des freins, ça empêchait de réformer. Et là, finalement, il revient un petit peu à ça en disant... Finalement, pour faire vraiment les réformes, il faut embarquer les gens. Pour embarquer, ça c'est un mot qu'il utilise beaucoup, s'il faut embarquer les gens, eh bien, passons par leurs corps intermédiaires. Mais est-ce qu'au final, ça ne va pas être des freins? C'est ça qu'on voit peut-être se dessiner sur la retraite. C'est ça qui va être intéressant. Est-ce que sa détermination et son cap sont compatibles avec une vraie association des corps intermédiaires?
Quand vous dites qu'il reprend le fil du début de son mandat et de sa campagne, il y avait cette volonté de réforme. Son livre, ça s'appelait « Révolution » au pluriel. C'est plus exactement la même tonalité. Ou en tout cas, c'est avec les Français.
Parce qu'il a fait un apprentissage, à mon avis, c'est qu'il faut du temps. C'est-à-dire qu'on ne réforme pas ce pays comme il l'a cru en 3 ans, ni même en 5 ans. On a la réponse dans l'interview, 10 ans. C'est-à-dire qu'il est maintenant sur une perspective à 10 ans. Donc, il garde la même ligne. Il a juste compris, d'où l'incertitude sur la réforme des retraites, que si on veut écouter les Français et ne pas les brousser, et si on veut transformer ce pays, ce à quoi il n'a pas renoncé, eh bien, il faudra plus de temps que ce qu'il imaginait.
Il a cette phrase, on a le droit de voir loin et grand, y compris quand il ne reste que 600 jours. Nous avons devant nous des mois qui sont durs et je ferai tout pour protéger les Français. Ces mots sont ceux du président. Il s'attend à 1 million de chômeurs de plus à l'horizon 2021. Alors, pour encaisser le choc, Emmanuel Macron annonce un plan de relance et des mesures spécifiques en direction des jeunes dont il a fait une priorité. Laura Rado et Christophe Roquet.
Nous allons avoir des plans sociaux, ils ont commencé. Et nous allons avoir une augmentation du chômage.
Massive.
Massive. Alors, ce qu'il faut faire, c'est nous préparer collectivement, agir pour défendre les emplois existants et ancrer au plus vite dans les secteurs qui sont en expansion. Et donc, soutenir l'activité, soutenir les salariés et se préparer à la suite. Nous avons décidé pour le pays d'un dispositif inédit d'activité partielle de longue durée, qui permet de garder dans l'entreprise les salariés, de les payer, parfois les uns en acceptant de travailler un peu moins, en allant vers des formations, et d'avoir l'État qui abonde ces dispositifs. Et donc c'est un plan, si je puis dire, anti-licenciement. Vous savez, on va mettre sur ce dispositif 30 milliards d'euros pour compléter parfois les salaires, pour financer des formations, pour permettre là, soit d'être le jour d'après un salarié mieux formé, mieux qualifié, qui gagnera mieux sa vie, soit d'aller vers des secteurs d'activité où il y a des opportunités. Nous allons avoir un dispositif exceptionnel d'exonération des charges pour les jeunes, en particulier pour les faibles qualifications ou les emplois jusqu'à 1,6 SMIC. Exceptionnel parce qu'il durera 1 à 2 ans, on va l'évaluer, mais il faut qu'il y ait cet élément d'accélération. Et surtout, on va créer des mécanismes nouveaux. 300 000 projets et contrats d'insertion qui permettent d'aller chercher les jeunes qui sont parfois les plus loin de l'emploi. On en crée 300 000. On va créer un formidable accélérateur sur le service civique qui fonctionne, dont nous avons vu la qualité. On a 140 000 à peu près contrats dans le service civique aujourd'hui. Nous allons en créer 100 000 dans les 6 mois qui viennent. Et enfin, on va permettre à des jeunes qui devaient rentrer sur le marché du travail de peut-être compléter leur formation, d'avoir un semestre ou une année d'études en plus. Et donc, on va ouvrir 200 000 places dans des formations qualifiantes supérieures pour permettre à un jeune qui n'a absolument aucune issue, aucune perspective d'embauche, de poursuivre un peu ses études. Je veux qu'on se lance dans un grand programme de rénovation de nos écoles, de nos EHPAD pour commencer, en lien avec les collectivités publiques qui sont derrière ces bâtiments. Mais nous pouvons faire des économies d'énergie massives, avoir nos enfants et nos aînés qui vivent beaucoup mieux, produire de l'emploi pour faire ces rénovations, et faire cette transition. Ce qui est important, c'est qu'on doit rentrer, et ce plan de relance en est l'opportunité, dans la construction d'un modèle qui est à la fois écologique, industriel et environnemental. On ne va pas recréer l'industrie d'hier. Mais on peut, en France, redevenir une grande nation industrielle grâce et par l'écologie. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas importer des matériaux de l'autre bout du monde dont le bilan carbone est absolument abominable. On va reproduire dans nos régions. Parce que le numérique va nous permettre aussi de produire des plus petites quantités plus vite grâce à l'impression 3D. Parce qu'on va aider nos entreprises, petites, moyennes et grandes, à investir pour passer à ce modèle écologique. Moi, je crois à cette écologie du mieux, pas à cette écologie du moins.
Donc ça va être l'expression des 600 prochains jours, l'écologie du mieux ?
L'écologie du mieux. Il en a assez peu parlé. Ouais. Il a fallu attendre 1 heure pour qu'il en parle. On sent que c'était pas au centre de sa préoccupation. Il voulait parler d'emploi et de fait, c'est quand même la principale préoccupation des Français avec l'ordre et la sécurité. Donc, il a mis le paquet sur l'emploi,
avec
sur la relance.
Avec des vraies annonces ?
Oui, avec des vraies annonces. On sent qu'il cherche à puiser à gauche et à droite, pour le coup. Sur l'emploi des jeunes, ça ressemble quand même beaucoup aux emplois Aubry. Il y aura 300 000 contrats d'insertion dans les associations pour les jeunes en difficulté. et plus d'inspiration de droite. Il y aura des accords dans les entreprises où on sauvera l'emploi en échange de modération salariale et de modération des dividendes. Donc, il essaye de construire voilà, une réponse à lui. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir de cette interview, c'est vraiment l'emploi, l'emploi, l'emploi.
L'emploi est la priorité de la rentrée, Eftréa.
Ah oui, parce que ça va être je pense que ça va être apocalyptique. On ne se rend pas compte non. du tout de ce
qui
va se
passer. Il dit qu'il y aura entre 800 000 et 1 million de oui. chômeurs de plus à l'horizon 2021.
Oui, il y en a déjà eu 800 000 au mois d'avril, hein, sur le seul mois d'avril. Donc le chômage partiel ne va pas pouvoir durer éternellement, même si il est décidé à mettre beaucoup d'argent. Il a la chance que les taux d'intérêt soient nuls et qu'il puisse mettre beaucoup d'argent. Et il compte beaucoup, parce qu'on dit, mais comment vous financez tout ça?
Alors j'ai une question là-dessus, bougez pas, je vous coupe. Y a-t-il une limite à l'endettement de la France? Les milliards vont-ils continuer de sortir du chapeau jusqu'à la fin du quinquennat?
Non, il n'y a pas de limite pour le moment. Pourquoi? Parce que, d'abord, la règle des 3% d'endettement, de déficit par rapport au produit intérieur brut, c'est fini, on n'en parle plus, alors que ça a fait des débats et des débats ici même. La deuxième chose, c'est qu'il y a un emprunt. Enfin, il va y avoir une aide européenne de l'ordre de 750 à 800 milliards d'euros, qui est énorme. Il faut convaincre les pays, certains pays qu'on dit frugaux pour qu'on puisse mettre ça en marche. Je pense que ça sera le cas et ça sera fait.
Et ce sera utilisé pour la relance en France.
Et ça sera utilisé pour la relance en France parce que vous n'aurez pas le droit de l'utiliser pour le fonctionnement, pour payer les fonctionnaires, par exemple. Il y a une troisième chose aussi qui devrait... c'est effectivement les taux d'intérêt qui sont très très bas. Et la Banque Centrale Européenne, qui met de l'argent sur la table, a une très haute dose depuis d'ailleurs assez longtemps.
Donc un plan de relance de 100 milliards.
Donc un plan de relance, en fait, qui et là c'est là où il faut faire attention, parce qu'il nous parle de 450 milliards tous. Il y a 350 milliards au titre des prêts garantis par l'État, quand une entreprise les demande cet argent, et puis à peu près 100 à 120 milliards pour les aides. Il a déjà mis 30 milliards ce matin pour l'aide à l'emploi, non pas des jeunes, mais l'emploi en général. Ouais. Et là, il faut voir aussi tout l'argent qui va rentrer. Par exemple, il a dit que les jeunes qui étaient payés une fois 1,6 le SMIC seraient exonérés de charges, non pas patronales, mais salariales. Ils sont déjà patronales, c'est déjà fait. Ouais. Donc ça, c'est du manque à gagner. Et ils n'augmentent pas les impôts. Donc je pense que la nouvelle que va retenir notamment son électorat, c'est qu'il n'augmente pas les impôts.
On ne résout pas une crise comme celle-ci en augmentant les impôts.
Je pense qu'il a assez raison de ce point de vue, parce que si en plus il augmente les impôts, à part l'histoire de l'impôt sur la fortune, qu'on va sans doute lui reprocher, ça serait compliqué, parce que l'investissement viendrait beaucoup moins en
France. Il y a quand même une annonce qui est passée un petit peu à la trappe, mais ça, c'était une de ses promesses de campagne, la taxe d'habitation. En gros, l'exonération de la taxe d'habitation serait, en tout cas, il a évoqué cette piste-là, reportée pour
les
plus
riches. Pour les foyers les plus aisés. Là, on voit bien qu'il va différer ça, et probablement s'inédier, en tous les cas, on sentait que c'était différé. Mais le risque qui le menace, je trouve, c'est que les sommes qui sont évoquées sont tout simplement vertigineuses. Quand vous évoquez 130 milliards ici ou 450 milliards là, il a fait la distinction d'ailleurs entre ce qui relevait des prêts et ce qui relevait du budgétaire, et qu'ensuite vous revenez avec 8 milliards, un peu plus de 8 milliards pour la santé, comment voulez-vous qu'on ne puisse pas avoir des mouvements de revendication qui disent « mais pourquoi pas 10, pourquoi pas 12, pourquoi pas beaucoup plus » alors que les besoins sont criants? Et ça, c'est un vrai risque, je trouve, plus encore que l'idée qu'il pourrait y avoir du chômage, les Français l'ont compris, une baisse de la fiscalité, il n'y aura pas une baisse, mais il n'y aura pas une augmentation, il l'a dit et redit. En revanche, le risque social de « on n'agit pas assez pour protéger les Français et on ne met pas assez d'argent sur la table », ça, c'est quelque chose qui peut être un puits sans fond.
Il est tenu déjà pour responsable dans les sondages qui sont les vôtres sur la crise économique qui pointe son nez? Parce qu'il a à un moment donné expliqué dans quel contexte il était à la fois accédé aux responsabilités, il a parlé du multilatéralisme avec l'allié américain, il a fait une photographie du monde tel qu'il est aujourd'hui. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des vents contraires.
Non mais j'ai envie de dire au contraire, durant toute la période du confinement, autant les Français étaient très critiques sur les mesures sanitaires et demandaient davantage de mesures sanitaires, ils ont été extrêmement critiques, on le sait, sur la question des masques, autant sur les mesures économiques, ils ont très vite compris que l'État mettait le paquet et il trouvait que là, les choses étaient plutôt adaptées ou au bon niveau. Donc on ne lui tient pas, ou pour l'instant en tous les cas, on ne le rend pas responsable de la situation économique.
Et puis on a eu cette expression « dette Covid » et on s'est dit que la dette Covid se serait remboursée plus tard. Donc là, pour le coup, sur la valse des milliards dont on parlait, il n'est pas exclu que ça continue.
Et ça ne va pas être compté dans les 3% de déficit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus personne maintenant qui tient un discours différent. Même Xavier Bertrand, qui veut être le candidat de la droite en 2022, ce week-end dans le JDD, il disait qu'il faut encore en mettre plus, plus vite, etc. Donc même la droite, elle n'est elle pas très forte sur le discours de la
dette. Ce n'est plus un sujet, la maîtrise des finances publiques, en fait.
Ben, ce n'est plus un sujet politique, en tout cas.
Même pas chez Merkel.
Et d'ailleurs, c'était le sujet de son allié, c'était le sujet numéro un à une époque de François Bayrou. Et c'est vrai que quand on pose la question au MoDem aujourd'hui, il n'est plus question de regarder ce sujet-là, parce qu'effectivement, c'est l'emploi en premier. D'ailleurs, ce qui arrive à Emmanuel Macron, c'est que finalement, ce sujet de l'emploi, il devait être derrière lui. C'est d'ailleurs c'est ce qu'il semble regretter dans cette interview en disant, en se rappelant de ses chiffres, des choix qu'il a faits, des bons chiffres dont il espérait se prévaloir. Et en fait, c'est un retour à la case départ pour Emmanuel Macron qui voulait embrayer sur d'autres sujets. Et d'ailleurs, s'est lancé sur d'autres sujets. On connaît son tropisme économique. Il a été ministre de l'économie. Et il y avait une volonté pour lui de s'emparer des sujets régaliens, donc de passer au séparatisme juste avant la crise du Covid, il faisait un déplacement sur des problématiques régaliennes. Il voulait changer de sujet. Et en fait, cette crise l'oblige à revenir à ce qu'il sait faire et du coup, quitte à découvrir son flanc régalien, là où la droite va essayer de l'attaquer. Alors, il y a assez peu de voies de passage, on le disait, pour la droite, parce qu'effectivement, le sujet de la dette n'est plus un sujet clivant aujourd'hui, mais c'est sur les problématiques régaliennes. On a bien vu au moment des relations difficiles et conflictuelles entre le précédent ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et les forces de l'ordre, que ça allait être un sujet. Alors, il a eu peu le temps de parler de ces sujets-là, sauf des caméras piétons dont vous parliez tout à l'heure.
Cette phrase, on parle de la droite, donc quelques réactions, celle de Bruno Retailleau notamment, hein, chef de file des sénateurs Les Républicains. Il dit « Le nouveau chemin, c'était une grande interview dans la presse régionale, un remaniement et un entretien le 14 juillet. Les trois auraient été sans perspective ni vision pour la réinvention. On repassera. » Il a la dent dure. Bruno Retailleau, quelle est la recette d'Emmanuel Macron pour la relance? Est-ce qu'il a donné des pistes? Il a parlé du travail, en gros, pour relancer l'économie après la crise du Covid.
La recette, je dirais qu'elle est social-démocrate. C'est-à-dire que c'est quand même des emplois, comme l'a dit Cécile,
Les
emplois jeunes, oui, c'est ça. D'accord. C'est des contrats qui vont être distribués, qui permettent
d'aller... C'est l'emploi subventionné ?
Oui, évidemment, c'est de l'emploi subventionné. Et c'est un petit peu d'aide aux entreprises. Donc, on est vraiment dans un contexte, je dirais, une philosophie très social-démocrate, mais il n'y a pas 36 000 recettes. Ouais. La seule recette que vous pouvez avoir, c'est carrément de baisser considérablement l'impôt sur les sociétés. Il en a un peu parlé, des impôts de production. Alors, c'est compliqué, c'est des petits impôts qui ne rapportent pas grand-chose, d'ailleurs.
Mais beaucoup pour les régions.
Mais qui comptent beaucoup pour les régions. Et si vous voulez, de laisser le code du travail, de l'ouvrir complètement. Mais il ne va pas faire ça maintenant, parce que sinon, ça serait une véritable bérésina, je dirais, évidemment, pour les salariés.
Oui, puis quand il est revenu sur cette question au tout début de la confiance, c'est aussi lié à la question économique, parce que le taux d'épargne, par exemple, en France est important, le niveau de l'épargne est important, donc l'enjeu clé, ça reste celui de la consommation, et pour ça, il faut qu'il y ait un minimum de projection dans l'avenir qui ne soit pas que sur un mode de précaution et d'anxiété. Donc tout se tient, comme disait l'autre, hein. Il essaye de recréer un peu de confiance, de donner des signes pour que la machine économique se mette en route, mais aussi à travers une reprise de la consommation.
A-t-il parlé de la décentralisation? Ça fait des semaines qu'on annonce que le président de la République, dans son nouveau chemin, va donner plus de place aux régions. On s'est complètement planté ou il a oublié?
Non, ça va être pour Jean Castex, ça, notamment dans son discours devant le Sénat, jeudi. Il n'a pas parlé de réforme de l'État non plus.
Un des sujets qu'il avait amorcé lors de ses interventions sur les leçons de la crise du Covid.
Voilà, oui, et de souveraineté, de faire revenir en France des secteurs entiers parce qu'on est trop dépendant de l'étranger. Donc c'est vrai que peut-être qu'il s'est laissé un peu embarquer par des questions personnelles ou des choses comme ça, mais en tout cas, on disait beaucoup que Jean Castex serait son collaborateur. Ouais. Là, comme on reste beaucoup sur sa fin, on a très envie d'écouter Jean Castex demain et peut-être qu'il va être plus éclaireur que collaborateur.
Il a fait le teasing du discours politique général de Jean Castex. Des attentes du coup pour demain sur les arbitrages.
Et là, on est quand même dans les purs de l'esprit de la Ve République, hein. C'est-à-dire que en 45 minutes, normalement, il a déjà parlé plus d'une heure. Hein. On ne pouvait pas évoquer tout. Puis c'est quand même les journalistes qui étaient les maîtres du jeu, là, on le sentait. Ce n'était pas Emmanuel Macron qui imposait ses thèmes. Et donc, il est probable que Jean Castex, demain, entre plus dans le vif, enfin dans le détail des sujets, sur la méthodologie justement pour parvenir, eh bien, à ce qu'il y ait pas trop de chômage, pour parvenir à ce qu'il y ait de l'écologie, pour parvenir à ce qu'il y ait plus de dialogue et pour réconcilier les Français avec leurs élites.
Vous parlez de l'écologie, il n'en a pas été trop question hein, pendant cette interview. Il y a eu quand même un mot sur le référendum. On était parti sur l'idée qu'il y aurait deux référendums. Là, pour le coup, le président a réduit la voilure.
Oui, il reste un référendum et encore, on voit bien, il a besoin d'un vote conforme du Sénat, de l'Assemblée. Et puis, ça revient simplement à changer l'article 1. Alors, certains vont être très contents qu'il change l'article 1 de la Constitution, mais dans la demande de la Convention citoyenne pour le climat, il y avait aussi le changement du préalable de la Constitution. Alors ça avait été laissé de côté dès les annonces d'Emmanuel Macron, le fameux lundi, au lendemain des élections municipales. Mais c'est vrai que par rapport à ce qui était attendu, annoncé, c'est-à-dire au début, on parlait d'un référendum à choix multiples. Alors, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, était tout à fait contre. Ensuite, il y avait la question du référendum article 89, du référendum article 11. Bon, on voit tout ça se rétrécit à peau de chagrin et ça devient maintenant assez improbable qu'on ait très vite un référendum. Les journalistes ont essayé de l'interroger, de le pousser pour avoir une réponse claire et ils n'ont pas eu de réponse claire sur un calendrier.
C'est curieux. Après les élections municipales, il aurait pu donner le sentiment de vouloir entendre ce qui s'est passé, même si on a relativisé hein, la portée du vite, message oui. Très vite, et vous l'avez très bien fait d'ailleurs, Brice Teinturier, avec vos études. Mais sur l'écologie, il parle du fret, il parle des trains de nuit, il parle de la rénovation thermique. Oui.
Il a évoqué un certain nombre de points qui relèvent des enjeux environnementaux, mais il les a remis surtout dans une perspective économique de production d'emplois. Ouais. Donc c'est ça son fil conducteur aujourd'hui, beaucoup plus que l'environnement pour la protection de l'environnement. C'est plutôt comment est-ce qu'à travers cet enjeu de l'environnement, j'arrive à relancer la machine économique astucieusement.
La relance servira à faire levier là-dessus. On l'a vu, par exemple, sur l'aide à Air France. Eh ben, en échange de l'aide, il y a eu fermé les petites lignes. Donc, toute la relance va être conditionnée comme ça à des mesures sur l'environnement.
Le grand absent, moi, j'ai trouvé de l'interview, oui. C'est le calendrier. Parce que le cap, on le voit très bien. Le chemin, c'est plus incertain, mais on sent qu'il y a une volonté d'être plus à l'écoute. Mais du coup, si on n'est plus à l'écoute pour parvenir à l'objectif, quel est le calendrier, quel est le phasing, comme on dit dans les entreprises. Et là, on ne sait pas bien. Sauf, j'en reviens toujours à ça, parce que je trouve que ce n'était pas innocent, sauf à considérer que cette référence aux 10 ans veut dire qu'il a intégré la nécessité d'un temps plus long pour réformer le pays.
D'ailleurs, ce qui est très clair, si vous voulez, il reste 600 jours d'ici à la présidentielle, 18 mois. Il y a une année utile. Ouais. On sait très bien que les derniers mois, il ne va pas réformer dans les derniers mois. Et donc, c'est pour ça. Là, je dirais qu'il brouille les cartes. Il ne cherche pas à donner de
c'était d'échéance. Un président candidat.
Oui, clairement. Oui. Bah oui, bon. Dans la détermination de vouloir convaincre, de dire, voilà, je vous écoute, j'ai un peu changé, et cap sur 10 ans. Donc, on fait des réformes qui sont des réformes difficiles et qui vont demander du temps.
On sort des municipales, vous avez deux moyens de gérer le temps. Soit vous faites tous les travaux pour que ça soit terminé juste avant l'élection,
soit
vous dites, vous avez encore besoin de moi parce qu'on a des enjeux majeurs qui enjambent le temps électoral. Et il me faut deux mandats pour faire ça. C'est un peu ce qu'il a essayé de faire.
Alors en tout cas, cela restera comme une image forte de la journée. Des soignants émus, mêlés aux militaires pour ce défilé du 14 juillet. L'hommage de la nation auquel s'ajoutent les 8 milliards du Ségur de la santé. Un plan historique, a dit hier le Premier ministre, qui n'aura pas suffi à calmer toutes les colères de l'hôpital. Pierre-Millet Bellando avec Antoine Magnan et Arnaud Foira.
Aux côtés des treillis qui défilent, des blouses blanches. Celles des soignants, mises à l'honneur par le président de la République pour ce 14 juillet. Un hommage symbolique à ceux que l'on disait en première ligne lors de la crise du Covid, ceux qui parfois, pendant la cérémonie, furent gagnés par l'émotion. Un moment presque sans accroc, jusqu'à l'irruption d'une banderole, au ton hostile. On peut y lire derrière les hommages « Macron asphyxie l'hôpital », signe que le financement de la santé en France continue de faire débat. Hier pourtant était signé un accord, le Ségur de la santé mené par le gouvernement, résultat de 6 semaines de concertation.
Ces accords de Ségur constituent des accords historiques par l'ampleur de leur revalorisation, de leur montant.
Un plan total de 8,1 milliards d'euros. Avec déjà une enveloppe de 7,6 milliards pour augmenter la rémunération d'une partie du personnel hospitalier, parmi lesquels les infirmiers, les aides-soignants ou les brancardiers. À quoi s'ajoute un chèque de 450 millions d'euros pour les médecins hospitaliers et enfin une enveloppe de 124 millions d'euros à destination des internes et des étudiants.
Il s'agit d'une forme de rattrapage par rapport à des années de retard où chacune et chacun, et peut-être même moi-même, a sa part de responsabilité.
Un accord signé par une majorité de syndicats de santé comme la Fédération hospitalière de France.
Ça nous inspire aussi beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir pour enfin revaloriser les métiers de la santé et plus particulièrement ceux qui exercent à l'hôpital public et dans les structures médico-sociales publiques. Il faut absolument que ce moment historique et cette enveloppe puissent nous permettre également d'avoir des leviers d'attractivité pour pouvoir continuer et recruter de façon massive.
Pourtant aujourd'hui, en parallèle des célébrations du 14 juillet, un autre défilé, au message différent.
Ségur, imposture, Ségur.
Parmi les manifestants, Michael, 38 ans, infirmier au service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat à Paris, est mobilisé lors de la crise sanitaire.
Moi, ça a été extrêmement dur et encore aujourd'hui, j'en paye le coup. Je suis fatigué.
Lui manifestait déjà avant l'arrivée du Covid. Les conclusions du Ségur de la santé lui semblent insuffisantes. Ce n'est pas juste d'un gros chèque dont aurait besoin l'hôpital.
Nos premières revendications, ce n'était pas une demande de hausse de salaire. Nos revendications, c'était simplement pouvoir faire notre travail dans des meilleures conditions, pouvoir prendre en charge les patients comme il faut et non plus être seulement des techniciens et d'enchaîner, de faire de la paperasse, de l'administratif. On se retrouve dépassé et à ne plus savoir finalement pourquoi on fait ce métier, alors qu'à l'origine, on n'avait pas choisi ça pour ça.
La CGT, qui a refusé de signer le Ségur de la santé, réclame 100 000 emplois supplémentaires dans les hôpitaux et 200 000 dans les EHPAD.
L'étonnant, c'est que le témoignage de ce soignant, on aurait pu l'écouter avant la crise du Covid, ça aurait été à peu près les mêmes mots, oui. Et avant la crise du Covid et avant le Ségur de la santé.
Bah oui, c'est le problème, si vous voulez. C'est que, et ce qui est vrai pour les soignants, c'est vrai pour les enseignants. Vous allez avoir la même chose, vous allez avoir la même chose pour la police. Vous allez avoir... Bon, le problème, si vous voulez, c'est que le Ségur de la santé, c'est effectivement, quoi qu'on en pense, une belle avancée par rapport à tout ce qui a été fait depuis 20 ou 30 ans, où il n'a pas été fait grand-chose. Mais c'est là où la promesse d'Emmanuel Macron n'est pas tenue. C'est-à-dire qu'il donne de l'argent, mais il ne réforme rien. Et la question de nos confrères était très intéressante. Est-ce qu'on est prêt si jamais il y a une nouvelle vague ? La difficulté chez nous, c'est qu'on l'a vu, c'est qu'on a une bureaucratie hospitalière et médicale qui est écrasante.
Ça n'a pas été pris en compte.
Et ça n'a pas été réformé. Ouais. Ça n'a pas du tout été réformé. Enfin, les pistes ne sont pas là, en tous les cas. Et c'était la promesse d'Emmanuel Macron et de Véran, quand ils ont ouvert le Ségur, c'est de dire, eh ben, la tubulure, on va essayer de la refaire pour que ce soit plus simple, pour qu'il n'y ait pas autant d'obstacles.
Mais il fallait aller vite. Oui. Donc, est-ce qu'on peut réformer les structures et aller vite ?
Mais j'espère que les structures, ils vont les réformer, parce qu'il faut absolument que ça soit réformé. C'est ce que demande cet infirmier. Ouais. Il dit, bon, ben, d'accord, on a de l'argent, mais il faut aussi qu'on soit moins pris par les travaux administratifs, qu'il y ait plus de gens, plus de personnel soignant. Il y a autant de personnel soignant que de personnel administratif, je ne crois pas me tromper, dans les hôpitaux aujourd'hui. Et ça, c'est... Même si on a des soins de qualité, eh ben, c'est un handicap majeur pour l'hôpital français.
Donc l'idée, c'était de le faire en deux temps. Là, il fallait aller vite pour que ce soit prêt avant l'annonce du nouveau chemin, comme illustration de la nouvelle méthode. On prend en compte l'émotion qui est née dans le pays à l'égard des soignants et on est prêt à faire un énorme geste. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que l'hôpital vient de tellement loin, même avec 183 euros d'augmentation par mois, je crois qu'on était la différence avec la moyenne européenne, c'était 300. Les soignants français sont payés 300 euros de moins. Donc ça progresse un peu, mais c'est vrai que le chemin est encore loin.
Vous vouliez dire un mot, Brice Saint-Thury?
Juste que dans la consultation qui a été organisée par les pouvoirs publics vis-à-vis des personnels soignants, c'est Ipsos qui a géré les remontées du terrain, on voit bien ces trois dimensions qui apparaissent, les moyens financiers, les moyens matériels et également les questions d'organisation de l'hôpital, d'organisation des services pour qu'il y ait plus de souplesse et plus d'interaction. Alors les hiérarchies ne sont pas les mêmes. Hein. Les moyens financiers et les moyens matériels sont quand même les deux premières demandes, celles qui arrivent le plus immédiatement.
Si la satisfaction n'est pas au rendez-vous totalement sur le Ségur de la santé, en revanche, il y avait un bel hommage. Aujourd'hui, on a vu les images et ça a fonctionné. On était tous très émus en voyant ces soignants mêlés aux militaires, des soignants eux-mêmes très émus.
Oui, c'était très émouvant, effectivement, parce qu'on voyait ces personnes en première ligne. On a souvent parlé de ces personnes en première ligne et elles l'étaient vraiment aux côtés des militaires. Elles ont occupé un rôle, on le sait, éminemment important, différent de celui des militaires qui se sont chargés des transports aériens entre les différents hôpitaux. Mais ils ont travaillé ensemble, finalement. Donc, c'était très émouvant de les revoir à ce moment-là, un moment où la crise n'est pas totalement terminée. Mais c'est vrai que des images de ces femmes, parce qu'il y avait beaucoup de femmes.
Il y avait
des hommes, mais il y avait aussi cette femme qu'on a beaucoup vue, qui avait les larmes aux yeux. Et c'était effectivement très émouvant, et c'est ça qui est terrible, en fait, c'est que on a les deux faces de la même, enfin on a deux faces de la même médaille dans la même journée, c'est-à-dire que c'est toute la France résumée telle qu'elle est actuellement, c'est-à-dire capable de se réunir, de concorde avec cet hommage aux soignants, et puis de l'autre côté les manifestations qui continuent et tout le problème du président de la République. C'était déjà son problème en 2017, mais c'était de réunir tout cela, et il a reconnu aujourd'hui à quel point c'était difficile, à quel point il avait échoué pour l'instant à le faire.
Cette question, Macron parviendra-t-il à retrouver la confiance des Français avant la fin de son quinquennat, Brice Teinturier?
Je n'en sais rien, objectivement. Son image, encore une fois, elle est très structurée. Après, la confiance, il peut grignoter quand même des bouts de confiance supplémentaires.
Comment est-ce qu'on grignote des bouts de confiance supplémentaires? En ayant des résultats?
Alors, il y a la question des résultats, mais pas que.
D'accord.
Il y a vraiment la capacité que vous avez à entrer en résonance et en relation avec les Français, à montrer que vous le faites sincèrement, que vous êtes capable de prendre en compte aussi une partie de ce qui est dit. Et puis, il y a des qualités ensuite de leadership, de protection, de réassurance. C'est tout ce mix, mais pour arriver à progresser un petit peu dans un pays aussi défiant, aussi radicalisé, aussi parfois haineux, et ça a été l'objet d'ailleurs du début de l'intervention, c'est quand même extrêmement difficile. Ça fait des décennies maintenant qu'on glose sur la défiance, les fractures qu'il y a dans ce pays, la fragmentation inhérente.
Il ne part pas de nulle part. Il a un socle qui lui reste fidèle.
Non seulement il a un socle, mais sa popularité à l'issue de la période du Covid, elle est retombée par rapport au gain du début, mais elle est plutôt plus élevée, un peu plus élevée que celle qu'il avait avant. Donc on n'a pas quelque chose qui est flat ou quelque chose qui serait tout chousse dans l'impopularité croissante, ce n'est pas vrai.
Et comment il se situe par rapport à ses prédécesseurs au même moment de son mandat?
Alors il est par rapport à François Hollande à un niveau qui est plus élevé, mais François Hollande avait subi vraiment une descente aux enfers, et il est à un niveau qui est à peu près celui de Nicolas Sarkozy.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Dire qu'on nous a dit que le port du masque était inutile.
Ça, c'est... Non, mais c'est ce que beaucoup de Français retiendront. Ça paraît anecdotique, ça ne l'est pas autant que ça, puisque c'est quand même un instrument de protection. Et c'est vrai qu'il y a eu... Alors, le mot est très fort, mais c'est quasiment un mensonge d'État qu'il y a eu au début.
C'est-à-dire dire que ça ne servait à rien parce qu'on n'en avait pas.
Mais bien sûr, alors qu'on n'en avait pas. Bon, après, ils auraient pu très bien... Je ne sais pas, mais l'explication, c'est qu'on n'avait pas de masque. Et parce qu'on n'avait pas de masque, on nous a dit que c'était inutile. Il est évident que ce n'était pas inutile du tout. Il y avait deux choses, masque et test. Et là-dessus, il y a eu, je dirais, pour beaucoup de Français, c'est un mensonge d'État quand même. Je pense qu'ils ne sont pas prêts de l'oublier.
L'un des arguments du gouvernement, c'est de dire qu'ils se sont calés sur les déclarations de l'OMS.
Je sais bien.
Au moment de la crise, qui n'était pas aussi clair que ça sur le port du masque.
Mais l'OMS n'a pas toujours été très, très droite, je dirais, là-dessus.
Je pense qu'il y a autre chose qui n'est pas ni un argument ni une excuse, mais imaginez un président qui s'adresserait aux Français en disant « Vous savez quoi? Le masque est utile et on n'en a pas. » Mais il aurait déclenché une panique aussi redoutable.
Ouais. Donc, c'est pour ça.
C'est très bien de dire « Il y a eu mensonge » ou « Il y a eu indépendamment de l'OMS », mais si on se met à la place de celui qui a géré ça, vous ne pouvez pas aller dire aux Français « Oui, c'est très utile, pas de chance. »
Et d'ailleurs, au moment où il a été interrogé sur les masques, il a dit que son niveau d'information était le même que celui de l'ensemble des Français et qu'il était dans l'absolue transparence sur le nombre de cas, notamment, et sur la reprise éventuelle de l'épidémie. Vous faites l'amour.
On n'est pas obligé de le croire.
En tout cas, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas interdit jusqu'à présent et que lui-même l'a annoncé l'interdiction, mais n'a pas voulu non plus la porter complètement en disant ce sera pour le 1er août. Ça reste
c'est
un embarras entre les Français.
Le fait qu'il laisse un peu de délai, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, et qu'ils disent, il n'a pas dit, on va interdire. Il dit, sans doute dans les prochaines semaines, et en tout cas, je le recommande. C'était un petit peu alambiqué, alors que c'est très simple de dire, maintenant, tout le monde met un masque. Alors, il y a un délai pour les contrôles. Il faut mettre en place des policiers qui verbaliseront, etc. Mais enfin, je pense qu'il sait que c'est une fracture entre lui et la population, et il a un petit peu du mal à aborder le sujet.
Oui, d'ailleurs, juste pour prolonger ce que disait Cécile Cornudet, il dit... Par exemple, le 1er août, parce qu'on lui pose la question de quand, et on aurait pu imaginer que le président de la République, il y a eu des pétitions de médecins pour demander à ce que le masque soit obligatoire, donc qu'il ait une réponse toute faite. Et effectivement, il n'y arrive pas. Il dit 1er août, par exemple. Donc c'est vrai qu'on attend aussi Jean Castex encore sur quelque chose d'un peu plus clair, d'un peu plus précis sur ce.
Ce sera la mission de Jean Castex, lever les zones de flou de ce nouveau chemin. C'est comme ça que vous le résumeriez.
Oui, en sachant toute la difficulté qu'avait Édouard Philippe parfois à lever les zones de flou venant de l'Élysée. Donc on ne sait pas si on ne va pas se retrouver dans le même schéma finalement qu'avant le remaniement.
Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas sur la même ligne ? Ils n'avaient pas le bon niveau d'information ?
Ou parce qu'il peut y avoir aussi venant de l'Élysée des messages qui ne sont pas toujours d'une clarté évidente.
Un nouveau chemin avec le même cap, qu'est-ce que cela veut dire ?
Ça veut dire qu'on change la méthode et regardez comme je suis plus proche de vous. Tout le remaniement, c'est de réduire la fracture entre lui et les Français, de montrer qu'on ne met plus des technos, on met des gens comme eux, des grandes gueules, qui ne sont pas toujours politiquement corrects. Il a eu une phrase aujourd'hui intéressante, il a dit « Moi aussi, je suis un Gaulois réfractaire. »
Oui, je me le suis appliqué à moi-même.
C'est étonnant. Donc c'est vraiment parce qu'il a en tête de dire « Mais je suis l'un des vôtres, je suis comme vous, donc ne me prenez pas pour ce que je ne suis pas un robot inaccessible et qui veut votre mal. »
Oui, c'est ça, c'est ce qu'il a eu comme phrase au début. En disant j'ai pu laisser paraître des messages qui ne me ressemblent pas en réalité. Écologie du mieux, mais pas écologie du moins, je ne comprends pas. Pouvez-vous m'expliquer ? Qui s'y colle ?
C'est comme tout le monde qui vous répète écologie positive, punitive. Ouais. Bon, le problème, c'est que, sincèrement, on n'a pas réussi à résoudre l'équation qui consiste à faire marcher l'économie avec l'écologie. Il est là le sujet. Et s'il s'en tient à ce référendum, qui n'a aucun intérêt sur le plan du fond, parce que ça ne change rien.
Changer une ligne dans la Constitution.
Non, c'est déclaratif en disant bon, la France respecte l'écologie. Bah oui, ça c'est d'accord. Mais ça ne change rien. Et on nous répète à l'envi cette histoire de logement avec qu'il faut.
Ce qui n'est pas rien, hein, en termes de budget, en termes d'économie d'énergie.
Ce qui coûte cher, ce qui crée probablement de l'emploi, ça j'en suis certain, ce qui économise l'énergie. Mais là, on attend le mode d'emploi. Personne ne nous a donné le mode d'emploi.
Vous avez eu quelques éléments précisés par Cécile Cornudet à l'instant. Il a dit on va le faire pour les EHPAD et pour les écoles.
Certes, oui, très bien qu'on commence par là. Et ça a dû commencer d'ailleurs dans certains endroits. Mais si vous voulez, il n'y a pas un discours clair là-dessus. Il est grand temps que la France se convertissent à ce que font les Néerlandais, à ce que font les pays scandinaves, on en est très très loin.
Se réinventer, est-ce seulement changer de gouvernement ?
Non, bien sûr, ça va au-delà. Ça joue sur la posture, ça joue sur la relation, ça peut jouer aussi sur le contenu de la politique. Et c'est là où on voit qu'il n'y a pas de réinvention d'Emmanuel Macron, puisque le cap, non seulement il le garde, mais il réaffirme qu'il est fidèle à sa promesse initiale, que le remaniement et la posture, on l'a déjà vu à l'œuvre dans ses tentatives, donc il n'y a pas quelque chose de fondamentalement nouveau là.
Il reste en même temps, politiquement.
Il a réaffirmé plusieurs fois le dépassement du clivage politique gauche-droite. Il l'a réaffirmé en réfutant que ce nouveau gouvernement était plutôt de droite.
Il est là le changement donc, d'ailleurs, il parle plus en même temps.
Il est sur le dépassement politique. Donc non, il n'y a pas de réinvention, mais on ne se réinvente jamais en réalité.
Et pourtant, qu'est-ce qu'on a eu des présidents qui nous ont promis de se réinventer hein ?
Mais ils ont tort, je pense, de faire une telle promesse, parce que pour le coup, comme elle n'est pas suivie d'effet et que les Français s'en rendent parfaitement compte, ça crée plutôt du scepticisme, de la déception ou de la critique. Donc il vaut mieux être, je crois, un peu plus modeste dans sa capacité à modifier le courant des choses, a fortiori si on ne veut pas le modifier. Il pourrait faire une inflexion profonde de politique, François Mitterrand l'a faite en 83-84. Ouais. Ce n'est pas le cas. Donc à ce moment-là, il ne faut pas promettre une réinvention ou quelque chose de fondamentalement différent.
En accordant son soutien à Darmanin, Macron se discrédite-t-il auprès des féministes ?
C'est sûr que les féministes vont très très mal prendre la façon dont Emmanuel Macron a justifié son choix de promouvoir, parce que c'est toute la question. Il était déjà au gouvernement Gérald Darmanin, mais il a été promu lors de ce remaniement. Ce qu'explique Emmanuel Macron, c'est qu'ils ont eu une discussion d'homme à homme. Donc je ne suis pas sûre que ce soit de nature à calmer. Yves Tréhard le disait tout à l'heure, les manifestations vont continuer. Ce sera sans doute un sujet pour Gérald Darmanin tout le temps qui passera.
C'est ça, il laisse penser qu'il a eu une explication avec son ministre et qu'il a été rassuré et convaincu par les explications de celui-ci.
Oui, alors que la question, elle est pas là, et ça donne l'impression, au-delà de l'affaire en elle-même, qu'il soit question de mœurs ou pas, ça donne l'impression d'un deux poids deux mesures, puisqu'il y a des ministres qui ont dû quitter le gouvernement tout au début du quinquennat, des enquêtes
avant la mise en examen.
La mise en examen, et ça, il s'en est pas expliqué pourquoi certains et pas d'autres.
Pourquoi Emmanuel Macron dément-il être de droite ? A-t-il peur de perdre les quelques électeurs de gauche qui le suivent encore ?
Il a été, à un moment, il a dit, mon premier ministre, en parlant d'Édouard Philippe, venait de droite et moi, je venais de la gauche. De toute manière, son électorat, enfin, je ne pense pas que Brice me contredise, il est à droite et au centre-droit. Donc, peut-être qu'il cherche probablement à aller chercher cet électorat de gauche.
À ne pas les perdre, en tout cas.
À ne pas les perdre de centre-gauche, on va dire. Oui, parce qu'il sent que là où il y a aussi... Je pense que les élections municipales l'ont fait pas mal réfléchir aussi. Même s'il y a eu beaucoup d'abstention, il y a eu quand même, à gauche... des signaux qui ont été envoyés, qui étaient des signaux positifs pour la gauche. Donc, ça ne lui a pas échappé. Hein.
Il y a l'électorat, mais il y a aussi sa majorité. Or, sa majorité, ça ne se voit pas trop, parce qu'il y en a beaucoup qui espèrent encore rentrer au gouvernement, mais ça bouge énormément. Et même
chez reproche à ce remaniement
D'être de droite, d'y voir la main de Nicolas Sarkozy, la promotion de Gérald Darmanin, ça ne passe pas du tout. Le conseiller politique d'Emmanuel Macron, Philippe Grandjean, est sur le départ, manifestement. Enfin, Richard Ferrand a très mal vécu le remaniement. Des poids lourds sont vraiment en plein malaise.
Ce sera l'étape d'après, après les annonces de secrétaire d'État, fois que certains auront été déçus. Masque, relance, écologie, et pour les incivilités et le laxisme grandissant. On parlait tout à l'heure des sujets qui n'avaient pas été abordés, Yves Tréhard le disait.
Oui, c'est un des grands absents de cette interview. Il n'y a rien, quasiment rien, sur les sujets régaliens, sur les sujets de sécurité, sur les sujets d'ordre public. C'est une intervention calée sur la relance économique.
Dernière question pour vous, les Français sont-ils davantage divisés maintenant que lors de l'élection de Macron ?
Non, ils ne le sont pas le plus, mais ils le sont beaucoup. Ils l'étaient déjà énormément, ils le sont toujours.
Eh bien, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25. On se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.